Amener ensemble ici. Et depuis 2004, je suis dans un ministère qui s'appelle le Camp Brochet. Beaucoup connaissez le Camp Brochet. Mais je me permets de vous présenter une vidéo ce matin qui résume ce que nous faisons au camp et nous parle aussi, nous projette dans l'avenir. Ça dure environ 7 minutes. Et je vais juste après ça dire un petit update sur notre été et on va ouvrir ensemble la parole de Dieu. Alors, ça va? Si ça ne va pas, ben... ça va mal aller. Alors, ça me prend du son, Mario.
Moi, je crois, c'est pas tant que c'est en chose.
Hein. Un petit peu. C'est peut-être ici. Non. C'est parce que là, tantôt, j'ai fermé, moi, tout mon son, là.
Oui.
Tu me suis? Là, on n'en a pas de nulle part. Tantôt, on en avait. Si je l'ouvre là, je l'ai, mais tu ne l'as pas, toi.
On va t'envoyer sur les paramètres audio de ton ordinateur.
Oh, ben là, là.
Normalement, quand tu fais ça, il faut que tu mettes partagé audio en même temps quand tu rouvres ton chose en partagé. Il faut que tu coches vidéo et audio partagé une place quand tu fais ton partage.
Mon cher?
Oui. Avant de le faire cher, là,
ouais.
Il faut aller copier, puis probablement
que tu ne peux pas faire. Ben là, ça se peut, là, regarde.
Oui.
Cher son, tiens, regarde ici.
Arrêtez là, on repart ton partage. Enlève ton partage, je repars.
Ouais, mais là, je. OK.
Et qui ne connaissent pas non plus le plan de salut qu'il veut leur offrir. Et chaque matin, nos campagnes.
OK. Alors, pour ça. Merci, Mario.
Le Camp Brochet a été fondé en 1967. Il se situe au Québec, dans la région du Saguenay. 18 bâtiments rustiques, mais confortables, ont été construits en forêt, sur le bord d'un magnifique lac. Été comme hiver, nos programmes ont lieu dans ce splendide décor.
Depuis sa création et jusqu'à aujourd'hui, le Camp Brochet a gardé la même mission, soit la mission de présenter le merveilleux salut en Jésus-Christ et également la mission d'encourager les chrétiens dans leur marche avec Dieu.
Nous accueillons des enfants de 7 à 17 ans pendant une période de 5 semaines en été et 3 week-ends en hiver. Pendant la saison estivale, nous avons également des programmes pour les adultes avec différents groupes d'âge et également pour les familles. Mis à part nos programmes de camp, nos différents camps, nos bâtiments servent aussi à différentes locations durant l'année.
Notre clientèle est composée à la fois de campeurs qui proviennent du milieu des églises évangéliques, mais aussi de campeurs qui n'ont pas l'habitude d'être exposés aux vérités bibliques. Cette deuxième catégorie-là de campeurs peut représenter dans nos camps d'enfants jusqu'à 60 % de la clientèle. Ça veut dire que parfois, on reçoit 80 enfants et parmi ce groupe de 80 enfants, il peut y en avoir 45 qui ne connaissent pas le Dieu de la Bible, qui ne savent pas qu'il les a créés, qu'il les aime et qui ne connaissent pas non plus le plan de salut qu'il veut leur offrir. Et chaque matin, nos campeurs se rendent à la chapelle où un enseignant ou une enseignante leur présente de façon simple, claire et précise le plan de Dieu pour leur vie. Le soir, on reprend les enseignements qui ont été vus le matin, on reprend les notions qui ont été vues le matin et on essaie de les présenter sous un autre angle, par exemple à travers des sketchs, à travers des leçons d'objets, à travers des témoignages, à travers des histoires. Et nos campeurs ont le privilège aussi de côtoyer un personnel qui a un objectif, l'objectif de d'avoir un impact dans leur vie spirituelle et de leur procurer des vacances qui sont saines et agréables.
C'est un immense privilège donc de pouvoir partager la bonne nouvelle à des enfants québécois. alors que les chrétiens évangéliques au Québec représentent moins de 1 % de la population. Mis à part quelques membres de la direction, le personnel du camp est essentiellement bénévole. Il provient d'églises évangéliques à la grandeur du Québec. Et à chaque année, Dieu pourvoit d'une façon particulière en envoyant un personnel qualifié et dévoué de très grande qualité. Un personnel qui croit à la mission du camp. Il y croit parce qu'à chaque semaine, il voit des enfants, des campeurs venir à lui. Il voit des campeurs comprendre une vérité biblique ou se consacrer à lui.
Parfois, on ne fait que semer dans la tête des enfants l'idée que peut-être Dieu existe vraiment, ou on sème dans leur tête le fait que la Bible est la vérité. On leur apprend des versets bibliques qui restent dans leur tête lorsqu'ils retournent à la maison, ou on leur apprend également des chants qui vont fredonner des semaines après leur retour à la maison. On croit que toutes ces petites choses-là qu'on fait en valent grandement la peine. Parce que chacune de ces petites choses-là peut contribuer à changer la destinée éternelle de nos campeurs.
La direction, donc, du camp Brochet souhaite, si telle est la volonté de Dieu, poursuivre cette œuvre, ce travail, encore longtemps. Et c'est dans cette option, dans cette optique, que nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter le projet de la nouvelle chapelle du camp Brochet. Notre chapelle actuelle est la plus vieille construction du camp. C'est un bâtiment important pour notre mission, mais qui aujourd'hui ne répond plus à nos besoins. C'est un bâtiment qui est vétus, inutilisable l'hiver, inadapté aux façons d'enseigner d'aujourd'hui. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter le projet de la nouvelle chapelle du camp Brochet.
La construction d'une nouvelle chapelle contribuera à assurer la pérennité du camp. Ce sera un bâtiment multiservice. On y trouvera un amphithéâtre comprenant des coulisses, un salon, un local de bricolage et une garderie. Elle deviendra ainsi un lieu central, non seulement dû à son emplacement, mais également par sa grande polyvalence. L'été, la nouvelle chapelle sera utilisée quotidiennement pour les enseignements bibliques qui sont au cœur de notre mission, ainsi que pour diverses activités, notamment les feux de camp lors des journées froides ou pluvieuses. L'amphithéâtre pourra s'adapter tant aux petits groupes de 50 personnes qu'aux groupes plus nombreux, et ce jusqu'à un maximum de 250 personnes. La chapelle pourra aussi accueillir des conférences, des mariages, des retraites d'église, mais surtout, elle permettra d'étendre l'offre de service du camp Brochet en étant accessible en hiver également. Au deuxième étage, on y découvrira une mezzanine contenant deux petits salons, parfaits pour relaxer ou discuter en groupe. Au centre, une salle de bricolage servira pour les ateliers des camps d'enfants et pour accueillir une classe au camp de famille. Ces espaces de vie ajouteront de la couleur aux journées grises en accueillant les campeurs pour bricoler, jouer de la musique, discuter ou s'amuser autour d'un jeu de société. La terrasse avec vue sur le lac et le feu de camp ajoutera aux attraits du camp. Elle sera un lieu rassembleur pour discuter tout en admirant les magnifiques couchers de soleil. Les gradins de l'amphithéâtre exploitent la pente du site et la forme du bâtiment se marie à l'environnement naturel. L'architecture s'inspire des matériaux rustiques utilisés pour nos autres bâtiments, mais dans un style contemporain. Cet investissement nous offrira une multitude de possibilités, et ce, 12 mois par année. L'expérience des campeurs et du personnel sera enrichie par ce bâtiment multiservice, plus adapté à nos besoins et à notre vision pour l'avenir. Ce grand projet est une étape majeure dans l'histoire du camp. Merci de le porter avec nous dans vos prières et d'y participer selon ce que le Seigneur vous aura mis à cœur.
Le partage Alors, vous avez un peu l'idée de ce que nous faisons au Camp Brochet maintenant. C'est un rappel pour plusieurs d'entre vous. Mais en même temps, cette vidéo-là, je ne pense pas que vous l'aviez vue. C'est une vidéo qu'on a fait au printemps pour promouvoir le projet de la Nouvelle Chapelle. Ce projet-là nous apparaît maintenant encore plus important, même si ça fait plusieurs années qu'on y travaille. Avec l'été qu'on a vécu en 2023, on peut dire qu'on est rendu vraiment à cette étape-là dans notre vie de camp. On a eu plus de 700 campeurs cet été en 8 semaines et demie de camp. Nous avons plus de 150 personnes qui sont venues comme bénévoles au moins une semaine pendant l'été. Ce que ça veut dire pour nous, là, en espace, là, comme quand on dit qu'elle est vétuste, trop petite, là, bien, notre chapelle à nous est certainement c'est la moitié de votre salle, OK? C'est ça qu'on a comme espace. Imaginez-vous que vous êtes dans cette salle-ci et que vous avez des chaises d'un bord à l'autre du mur, un espace de 4 pieds entre les deux, OK? Du monde dans le cadre de porte, du monde jusqu'à 5 pieds de la tribune, jusqu'au mur au fond. C'est ça que ça représente chez nous pendant l'été. 4 semaines durant l'été, on était dans cette situation-là, donc la moitié de l'été. Même à la fin de l'été, lorsqu'on a eu notre camp de jeunes adultes, on a fait nos messages, on a fait notre conférence, si vous voulez, dans le gymnase. Alors, c'est le fun d'avoir un gymnase, c'est pratique, mais c'est pas fait pour faire ça. S'il pleut, ça nous prend l'espace pour jouer, c'est ça. On peut pas faire ça avec les enfants. On le fait avec des jeunes adultes. Donc, c'est là où on est rendu. Alors, non seulement si ce bâtiment-là est trop petit, mais il faut savoir aussi qu'il y a une autre aile dans ce bâtiment-là qui sert au bricolage. Et ça, quand on dit la plus vieille construction, le plus vieux bâtiment, c'est cette partie-là, entre autres, qui a été construite en 1967. On arrive donc avec un bâtiment, le plancher est fini, c'est pourri. Donc, c'est à refaire. Et tant qu'à refaire, on veut le refaire pour les 50 ans, 25-30 ans qui vont suivre, si le Seigneur ne vient pas nous chercher. Donc, c'est la vision que nous avons au Camp Brochet. Maintenant, je l'ai dit, c'est notre été 2023, c'était le plus gros été que le camp ait connu. C'est des standards plus gros que 2019 avant la pandémie. Il y a 2 semaines seulement où le camp n'était pas plein sur les 8 semaines. On a eu des commentaires très positifs des parents qui envoient des enfants chez nous. Alors ça, c'était pour nous très, très encourageant. Et comme j'ai dit aussi, il y a une équipe de plus de 150 gens, jeunes et plus vieux, des gens de votre âge, qui sont venus au camp travailler avec nous. Et franchement, là, c'est excessivement motivant. Quelqu'un me demandait comment j'allais. Ben moi, honnêtement, je vais très bien. J'ai eu un été incroyable. Je suis sorti de l'été galvanisé, rempli, fatigué. Mais prêt à en faire un autre, presque, là, tu sais. Suzanne, pour elle, là, ceux qui la connaissent, elle me disait, c'est le plus bel été que j'ai jamais eu au camp. Alors, c'est ça qu'on a vécu en 2023. On a eu un printemps très motivant aussi. On est allé en Europe. On a pu parler du ministère du camp. On a été aussi invité, je sais pas si je l'avais dit, mais on a été invité par un regroupement de camps qui est en France puis en Suisse, comme Suzanne et moi, comme conférenciers, parler un peu de ce qu'on faisait au camp, comment on travaillait avec nos équipes. Alors, eux étaient intéressés à entendre ça. Donc, on a vraiment eu des belles rencontres pendant 2 semaines et demie. On était avec François Fréchette dans ce voyage-là, entre autres. Plus particulièrement, sur le projet de la chapelle, on est rendu où? Les plans ont été déposés au mois d'août pour le permis de construction. Ils ont été acceptés là, il y a à peu près 3 semaines. Donc, on s'attend, là, on a un go là, de la municipalité pour aller de l'avant. Les architectes, donc, ont fait tout ce qu'il y avait à faire jusque-là, maintenant. Il nous reste à aller en soumission, et ça, on voudrait le faire début d'année 2024, pour une construction à l'automne 2024. C'est un projet qui est pour nous pharaonique, il faut être honnête. Quand j'ai dit que c'est dans la vidéo, j'ai dit que c'est un projet audacieux. C'est vrai que c'est un projet audacieux. on saute le million pour différentes raisons, mais particulièrement deux, là. C'est pas parce que c'est gros, plus que c'est énorme, c'est pas parce que c'est chic, là. Il y en a qui pensent qu'on se met des plaques d'or là-dedans, c'est pas vrai. C'est qu'on a des délais assez courts pour le faire. Nous, au camp Brochet, ceux qui ont travaillé, je vois André, Daniel, vous êtes venus travailler au camp, on étire nos contrats, non, nos projets sur 2 ans, 3 ans des fois. Celui-là, on ne peut pas. C'est un bâtiment qui est indispensable pour nos opérations. Et donc, on débâtit à l'automne, puis ça nous prend au moins la coquille pour être opérationnel, avoir, comme on dit, un toit sur la tête l'été d'après. Donc, ça nous donne quand même plus de mois pour faire ça. Donc, on a des délais courts. On ne peut pas étirer le projet plus qu'il faut. C'est sûr que la finition, on va en faire après, mais ça nous prend quand même une bonne coquille, une bonne structure. Deuxièmement, le projet dépasse nos compétences internes. OK? Généralement, on fait toutes nous autres mêmes. On a du bénévolat, on a des gars qui sont capables. Vous allez voir une photo de ce qu'on fait présentement. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de travailler de leurs mains chez nous. Puis ils sont capables d'en prendre en charge de nos projets de construction. Celui-là, il dépasse nos compétences. Puis les gars qui ont 70 ans passés, ben ils disent, regarde, Pierre, on ne peut pas aller là. Alors, c'est l'autre raison pour laquelle le projet est plus dispendieux, c'est qu'on va aller on va voir un contracteur. Ça va nous prendre un contracteur général qui va pousser le projet. Essentiellement, c'est ça. Là, au lieu de coûter à 600 000, ben il en coûte 1,2 million. On a 300 000 dans le compte de banque de ramasser depuis 2 ans, 3 ans pour ça. J'ai rencontré des gens, on est là-dessus, j'en parle maintenant ouvertement. Nous estimons qu'on a besoin d'environ 800 000 cet hiver pour aller voir des contracteurs. Pour dire, regarde, nous, on a besoin d'une coquille, là, votre cas, on verra avec le contracteur, mais on a un objectif de 800 000. Donc, grosso modo, il nous manque 500 000 à ramasser dans les prochains mois. On est là-dedans, on prie là-dessus, puis on attend de voir qu'est-ce que le Seigneur va faire avec ça. C'est le projet du Seigneur, ce n'est pas mon projet, ce n'est pas le projet du conseil d'administration. On le remet entre les mains de Dieu et on s'attend à lui pour la suite des choses. Alors, merci pour votre support depuis quand même plusieurs années avec le camp. Vous avez été généreux, vous avez été fidèle envers moi, envers le camp. Puis on vous demande de prier pour ça, puis de nous montrer ensemble qu'est-ce qu'on fait avec ce projet-là. Je vais être disponible après là, s'il y a des questions. Ça va? Alors, on s'en va maintenant sur principalement la raison de ma venue ce matin. En commençant avec une photo, si je devrais aller comme ça, hein, si je fais ça, ça devrait... Je vais peut-être prendre l'autre. Ça. Good. Excellent. Alors, juste une photo de ce qui se passe actuellement. Là. Il y en a qui connaissent Réal Gauthier, l'équipe de travailleurs. On refait l'extérieur de la grange, qu'on appelle, là, notre salle à dîner. On n'arrête pas, là. Même si on a un gros projet, on n'arrête pas d'entretenir nos équipements, de continuer à bonifier. Ça, c'était un bâtiment là, qui avait besoin de ça. Donc, on est là-dessus. On a 3 côtés de fait, là, si je m'abuse. Au moins 2 côtés, en tout cas, en date d'aujourd'hui. Alors, c'est vraiment le fun de voir le dynamisme de notre équipe. Qui ont plus de 70 ans, à lesquels se greffent maintenant des jeunes, des gars de 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui prennent une journée par semaine pour venir travailler sur ce projet-là. Alors, c'est le fun de voir comment le camp est dynamique avec ces gens-là. Projet de la chapelle, j'en ai parlé, donc je saute ça. Je vous amène maintenant dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel. On va se parler du roi Saül. Pas un personnage qu'on entend souvent parler. C'est un personnage un peu énigmatique. On ne sait pas s'il est malade mental. On ne sait pas s'il est sérieux spirituellement. c'est qui ce gars-là? Et j'ai quelques messages de monter sur le roi Saül, mais je terminerai, je porte ce matin un message qui nous parle plus de ce qui n'a pas fait, ce qui n'a pas fonctionné dans sa vie. Parlons comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Juste pour le situer là un peu plus, je vous donne quelques points. On a tendance à penser au roi Saül comme étant une espèce de un pas bon, puis un choix de deuxième ordre, surtout. Hein? C'était pas le bon, ça. C'est qui le bon roi? C'est David, qui va arriver après lui. Saül, c'est comme une erreur de parcours. Qu'est-ce qu'il fait dans le décor? Et ce que je voulais souligner dans ce message-là, que je ne fais pas avec vous, mais c'est la conclusion de mon message, bien, premièrement, Saül, ce n'est pas un mauvais choix. C'est le choix de Dieu. Il n'était peut-être pas de la tribu de Juda, il était d'une autre tribu, mais c'était le choix de Dieu pour le peuple d'Israël. C'est un Dieu qui est bon pour son peuple, qui a de la miséricorde, de la compassion, qui voit ce que le peuple subit comme oppression de la part des Philistins, des pays, peuples autour qui mettent de la pression sur Israël, l'attaque. Donc, il n'envoie pas un chaudron, là. Il envoie quelqu'un de très, très bien. Il a envoyé Saül, donc, pour délivrer son peuple. Puis, si vous voulez vous aider à comprendre, ceux qui ont un peu de connaissance dans le livre des Juges, rappelez-vous comment Dieu suscitait des hommes et même des femmes pour délivrer son peuple. Des gens qui arrivaient de peu importe les tribus, des situations. Il y avait des gens très, très forts, Samson, mais il y avait des gens très peureux, Gédéon. Mais il allait chercher des gens comme ça dans des situations précises pour délivrer son peuple. Saül, c'est un peu ça. Saül, c'est le choix de Dieu pour une situation précise. Dieu aussi n'a pas, comme j'ai dit, donné un chaudron. Il a pas voulu non plus que Saül échoue dans son projet. Il a choisi le meilleur. Il a tourné, on va regarder vitement, 1 Samuel au chapitre 9, versets 1 et 2. Alors, l'histoire de Saül, ça commence au chapitre 9, puis ça va se terminer bien plus tard, parce qu'à la fin du chapitre 2, chapitre 1. Donc, mais ce verset nous parle de lui. Alors, il y avait un homme de Benjamin appelé Kis, donc de la tribu de Benjamin. Il était le fils d'Abiel, petit-fils de Tseror, descendant de Bécaroc, d'Aphiaph, lui-même fils de Benjamin. C'était un vaillant guerrier. Il avait un fils du nom de Saül. Alors, retenez ça. Son père, le père de Saül, était un vaillant guerrier. C'était pas un gars de deuxième ordre, là. C'était une famille solide. Et Saül, lui-même, était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites qu'il dépassait par une tête. Donc, le choix de Dieu est de donner ce qu'il y a de meilleur. On voit plus tard que même, c'était pas non seulement c'est quelqu'un qui était vaillant, mais c'était pas non plus quelqu'un qui était pauvre. Il y avait des richesses. Troisième chose, Dieu est venu aussi habiter en lui. Il n'y a pas seulement donné Saül, il est venu habiter en lui. Donc, il n'y a pas seulement donné le meilleur. Et son esprit est venu en lui. Donc, il voulait que Saül soit apte à accomplir la mission, le mandat qu'il lui avait donné. Il voulait qu'il soit apte à accomplir toutes les tâches, toutes les habiletés pour juger le peuple. C'était ça son mandat, le mandat du roi, juger le peuple et le diriger dans les combats. Donc, avec l'Esprit de Dieu, Saül est devenu un autre homme complètement. Ça, on voit ça au chapitre 10, entre autres. Verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes se réalisèrent le même jour. Verset 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu vint sur lui et il prophétisa au milieu d'eux. Alors, Saül est une nouvelle personne que Dieu utilise. Et aussi, Dieu a confirmé le choix de Saül. Il l'a confirmé d'une façon en privé par Samuel. Samuel va oindre, va verser de l'huile sur la tête de Saül pour l'identifier en tant que roi. On voit ça au chapitre 9. Et au chapitre 10, à la fin, on va le voir maintenant avec l'ensemble du peuple. L'ensemble du peuple pour être présenté publiquement cette fois-ci comme le roi. Puis entre les deux, bien, il y a des épisodes où on le voit autour de sa famille qui vont reconnaître que ce n'est plus le même gars. Il est maintenant habité de l'Esprit de Dieu. Donc Dieu confirme à lui individuellement et confirme publiquement que c'est son choix. Alors, ce qu'on retient de ça, c'est simple. C'est que Dieu donne le meilleur, puis que Saül n'est pas un deuxième choix. C'est pas un choix de second ordre. Quelqu'un m'a dit une fois, il dit, c'est sûr que Saül, ça pouvait pas marcher. C'est comme si le peuple avait, d'ailleurs, le peuple avait voulu un roi. Puis on voit la confrontation avec Samuel à ce sujet. Le peuple veut un roi, Samuel n'est pas d'accord. Mais en fin de compte, Dieu lui dit à Samuel, fais-le. Ce n'est pas toi qui le rejette aujourd'hui, c'est moi. Ça, c'est le chapitre 8 qu'on voit ça. Alors, on pourrait penser qu'écoute, là, en fin de compte, Dieu, il y a comme, vous voulez avoir un roi, bien voyez, je vous donne rien que ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Saül avait tout en main pour réussir le mandat que Dieu lui confiait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que la chaîne a débarqué? Vous connaissez l'expression dans le sport? Hein? À un moment donné, c'est que Philippe Dano avait été interviewé par un journaliste du Canadien, puis le Canadien avait gagné comme 10 games en partant dans la saison. C'est arrivé une couple de fois, ça. Puis après ça, ils ont planté. Ça n'avait plus rien qui marchait. Fait que là, il dit, comment ça se fait que ça marchait, puis là, ça ne marche plus. Puis là, Dano avait dit, avec notre équipe, ça prend tout le monde, sinon la chaîne débarque. Autrement dit, si on ne travaille pas ensemble, la chaîne débarque. La chaîne débarque. Il n'y a plus rien qui marche. La chaîne, pour Saül, a débarqué. Mais pourquoi? Alors, notre texte d'étude ce matin, c'est le chapitre 13 de 1 Samuel, versets 1 à 14. Je vais lire ces versets-là, les commenter un peu. Mais ce que je veux surtout faire avec vous dans, il me reste à peu près 20 minutes, c'est de sortir des principes pour nous, vie à nous. Okay? L'exemple de Saül, il faut qu'elle nous serve. Donc, on va lire ensemble, puis je commente les versets 1 à 14 du chapitre 13 de 1 Samuel. Je lis dans second 21, donc ça peut être un petit peu différent des fois. Saül était âgé de 30 ans. Lorsqu'il devint roi. En passant, on n'est pas sûr du 30. Ceux qui ont des notes voient qu'il n'y a pas de chiffre même pour certains. C'est une approximation. Mais on sait qu'il a régné 40 ans par contre. Donc, Saül avait environ 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régnait depuis 2 ans sur Israël. Quand il choisit 3000 Israélites, 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan. Jonathan, c'est son fils, à Gibéa de Benjamin. Quant au reste du peuple, il leur envoya chacun dans sa tente. Jonathan battit les garnisons des Philistins qui se trouvaient à Gibéa, et les Philistins l'apprirent. Donc, Jonathan, il part en guerre. Saül fit sonner de la trompette dans le pays en disant, « Que les Hébreux l'apprennent! » Tout Israël apprit que Saül avait battu la garnison des Philistins. Et qu'Israël avait provoqué le dégoût des Philistins. Ils vont nous avoir en horreur. Le peuple fut convoqué vers Saül à Gilgal. Verset 5, les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars et 6 000 cavaliers, et ils formaient un peuple innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent installer leur camp à Michmash, à l'est de Beth-Haven. On arrête là. Donc, pour comprendre, il faut voir que le pays d'Israël, là, on a un roi qui s'appelle Saül, mais le pays est contrôlé par les Philistins. Les Philistins ne sont pas juste sur le territoire des Philistins, ils sont à l'intérieur du pays d'Israël. Les noms qu'on lit, là, qui sont difficiles à lire, là, ce sont des villes qui sont tout près de Jérusalem. Alors, Michmash, c'est une garnison de Philistins qui est à Michmash, tout près, quelques kilomètres de Jérusalem. Ils sont en plein cœur du pays. Et on a les réactions de Jonathan et de Saül. Puis là, il faut voir quelque chose d'intéressant ici. Jonathan prend l'initiative d'aller combattre. Il dit, ça se peut pas qu'on ait ces Philistins-là sur notre territoire quand Dieu nous a donné la victoire contre eux. Lui, il a une vision. Il connaît son mandat. Il sait pourquoi il est là. Puis il dit, on va y aller. Il y a moins de soldats que Saül, mais il dit, moi, j'y vais. Saül, qui a plus de soldats, semble être assis un peu tranquille. Il n'y a pas de réaction initiale. Il ne lui va pas à guerre, lui. Il ne semble pas intéressé, du moins dans notre texte, à aller de l'avant. Au point même que lorsqu'il va apprendre que Jonathan a vaincu cette garnison de Philistins, il va un peu paniquer. Parce que ce qu'il dit, c'est ça. Il fait sonne de la trompette. Ce qu'il fait, c'est un... Tout le monde, venez vers moi. On va devoir se battre. C'est comme une obligation qu'il voit. Quand il dit, on a provoqué le dégoût des Philistins. Le dégoût, c'est une réaction. En fin de compte, c'est le même mot que puanteur. C'est comme si on est rendu des déchets, là. On est rendu d'une poubelle pour les Philistins. Puis une poubelle, on s'en débarrasse. Alors, c'est comme ça que Saül voit la situation, lui. On est fait. On va aller en guerre, puis on va encore se faire ramasser. C'est comme ça qu'il voit les choses. On lit maintenant la réaction du peuple d'Israël, versets 6 et 7. Les Israélites se virent menacés, car ils étaient serrés de près. Donc, les armées se rapprochent d'eux. Et ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les rochers, les caveaux, les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour se rendre dans le pays de Gad. Donc, ils sont traversés à l'est du Jourdain. Ils ont fui le pays. Et quant à Saül, il était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait. Ils ont la chienne, comme on dit. Ils ont peur, ils se cachent. Il fuit le combat. C'est comme ça qu'il se sent, qu'il vive la chose. Il faut savoir aussi que c'est peut-être une réaction normale, humaine, du moins normale, parce que ce n'est pas des hommes de guerre très équipés. Vous savez que les Philistins contrôlaient le fer à ce moment-là de l'histoire d'Israël. Les Juifs, les Israélites, on le voit même à la fin du chapitre, ils n'ont même pas d'endroit, ils n'ont pas d'épée. Donc, les armes ont été confisquées par les Philistins. Et les haches et les fourches et tout ce qui est d'instruments oratoires et doit être aiguisé chez les Philistins. Alors, ils n'ont pas de moyens de défense. Puis, on a vu que les Philistins, eux, sont équipés. Ils ont des chars, des troupes nombreuses. Donc, c'est un peu normal, humainement, d'être paniqué face à la situation. Mais ce n'est pas spirituel, cependant. Alors, arrive Samuel, et on a ça à partir du verset 8 maintenant. Saül attendit sept jours, conformément au délai fixé par Samuel. Mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors, « Amenez-moi les victimes destinées à l'Holocauste et au sacrifice de communion, et il offrit l'Holocauste. » Il finissait d'offrir l'Holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Alors, on voit que Saül a agi précipitamment et aussi hors de son champ d'action. Donc, parlons comme ça, là. Il n'avait pas le droit de faire ce sacrifice. Ce n'était pas un sacrificateur, c'était un roi. Alors, il a usurpé, si on peut dire, le rôle de Samuel. Samuel était là pour exercer ce sacrifice, faire ce sacrifice. C'est la raison, c'est ce qu'il va suivre d'ailleurs. Samuel dit, « Qu'as-tu fait? » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu le peuple qui se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé, et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre à m'attaquer à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Samuel arrive, puis c'est comme si Saül arrive, puis il dit, « Salut, comment ça va? » T'arrives là, toi, là. Mal à l'aise. Puis Samuel répond tout de suite, « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Qu'est-ce qu'il voit? Peut-être les animaux qui sont là, une pierre ou un autel érigé. Il voit certainement qu'est-ce qui s'est passé, tout de suite. Donc, une réaction. Saül parle, entre autres, d'une façon assez claire qu'il s'est fait violence. Je ne sais pas si vous avez remarqué la fin du verset 12. « C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Cette idée, ce mot-là, « violence », c'est que ça souligne le fait qu'il était très conscient de ce qu'il a fait. C'est comme si il prend la responsabilité. Il comprend ce qui se passe, puis il dit, « Faut que je fasse ça. Ça ne me tente pas, je ne peux pas, mais je le fais quand même. C'est pas à moi de le faire, mais là, il faut que je le fasse. » Alors, c'est ça l'idée. Il est très responsable de ce qu'il fait. Il prend la responsabilité d'offrir le sacrifice. Et Samuel va lui faire ce reproche. Et il va annoncer un jugement. Samuel, verset 13, dit à Saül, « Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. » Quel texte, quelle fin triste. Tu n'as pas respecté ce que l'Éternel avait ordonné et tu vas tout perdre à cause de ça. C'est triste, c'est solennel. Donc, pourquoi, ma question, pourquoi Saül a tombé? Pourquoi il a failli dans sa tâche? Il avait tout pour réussir et il est tombé. Les psychologues vont regarder Saül, puis ils vont peut-être parler de troubles de comportement. Il est narcissique, orgueilleux. Il est trouble psychologique, dépression, jaloux de David, on va le voir plus tard. Puis dans un autre spectre, on peut aussi spiritualiser ce texte à l'extrême et dire tout simplement que c'était la volonté de Dieu que ça se passe comme ça. C'est vrai, Dieu est souverain. Hein? Puisque la royauté devait descendre de la tribu de Juda, c'était déjà annoncé, et non celle de Benjamin, bien c'était, regarde, c'est ça qui devait arriver, Dieu l'a voulu comme ça. Personnellement, moi je pense qu'on passe au côté de ce que la parole de Dieu veut nous enseigner, des vérités de la parole de Dieu, comme Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens au chapitre 10. Toutes ces choses sont arrivées pour notre enseignement, comme exemple pour nous. Et d'où l'idée de sortir des principes que je peux détecter dans la vie de Saül qui vont m'être utiles pour moi dans ma vie, comme des réalités spirituelles aussi dans ma vie. La première, nous devons connaître notre vocation. C'est quelque chose qu'on n'entend pas très souvent, mais je trouve que l'exemple de Saül est vraiment frappant à ce niveau-là. C'est quoi une vocation? Là, je ne parle pas de vocation religieuse rentrée chez les prêtres, mais c'est quand même l'idée de connaître ce que Dieu veut de nous. C'est l'acte par lequel Dieu prédestine tout homme ou femme à un rôle déterminé. C'est notre mission, c'est nos objectifs. C'est ce qu'on va appeler, nous, en tant que chrétiens, notre appel. Le peuple voulait un roi pour être jugé par lui. Il voulait que ce soit lui qui allait les délivrer des ennemis. Puis malgré que ce soit de cette façon que Samuel a présenté Saül, on voit que rapidement, Saül s'est détourné de cet appel, s'est détourné de ce mandat. Puis même dans notre histoire, c'est Jonathan qui est le leader du peuple. C'est plus Saül. C'est comme si son mandat, son appel pour Saül est devenu flou. Il ne sait plus pourquoi il est là. Donc, son engagement nécessaire pour sa tâche, son engagement semble faire défaut. Il n'y a pas une idée claire de l'appel de Dieu pour lui. Je vous donne un exemple de quelqu'un qui a une idée claire de ce qu'il est et de ce que Dieu veut pour lui. Paul, je cite des versets. Romains chapitre 1, verset 1. Regardez comment Paul se présente. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Galates 1, verset 15. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Paul établit l'autorité de son ministère sur le fait qu'il a été appelé. Appelé à être apôtre, un titre, un travail, une tâche, un ministère. Vous savez, chaque chrétien est appelé. OK? Vous êtes appelé. On a tous un appel général. C'est quoi? Honorer Dieu dans notre vie, le glorifier. Des choses qu'on apprend assez vite dans notre vie chrétienne. L'adorer, être ses témoins sur terre. Hein? On apprend ça. Mais nous avons aussi un appel qui est plus spécifique, un appel particulier. Puis là, je ne parle pas d'aller dans le ministère à plein temps. Ça, c'est une autre sorte d'appel. Mais on a tous un appel qui est lié à nos dons spirituels. Vous êtes dans une église et vous avez des tâches à accomplir. Nous sommes dans l'Église universelle de Dieu. Moi, je suis à Chicoutimi, vous êtes à Sainte-Marie, il y en a à Québec, vous savez. Mais nous avons tous une tâche à accomplir. Alors, je parle d'un sens unique de l'appel, qui est individuel, par lequel le chrétien a une idée générale de la raison par laquelle Dieu l'a sauvé, puis un appel plus spécifique de sa tâche et de sa contribution au corps de Christ. Marc me disait que vous avez eu un message sur les dons dernièrement. C'est ça. Alors, vous avez entendu parler de ça. Vous avez des dons spirituels. Nous avons tous, chacun, lorsque nous venons au Seigneur, nous sommes habités par lui. L'Esprit vient en nous et il nous équipe chacun individuellement pour son service. Trop de chrétiens semblent avoir perdu le sens de leur vocation. Et comme Saül, ils semblent se cacher dans les bagages de l'Église. Saül se cachait dans les bagages lorsqu'il a été appelé à la royauté. Est-ce que vous vous cachez dans vos bagages? Ou est-ce que vous prenez vos responsabilités pour le service pour Dieu? Je n'ai pas le temps de rentrer dans mon témoignage personnel parce qu'il y a une autre dimension à cet appel. Mais je veux quand même dire qu'il y a une dimension, je ne parlais pas de mon témoignage, mais il y a une dimension où on a un appel spécifique, OK, qui dépasse le simple don. C'est l'appel à donner, à se consacrer à temps plein, à faire quelque chose qui dépasse un peu ce qu'on fait habituellement. Et ça, c'est pas tout le monde qui l'a, OK? C'est Dieu qui va donner à sa façon, et ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Dieu est particulier pour chacun d'entre nous. Moi, c'était d'une façon particulière. Avant, il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous aussi, de laisser tout ce qu'on a pour aller dans le chemin qu'il nous a tracé. Donc, l'intérêt de ça, c'est quoi? Connaître notre vocation, bien, ça va nous affermir, ça va nous donner de la stabilité dans notre marche chrétienne, ça va nous dire pourquoi on est là. Je suis un témoin de Dieu, je marche pour lui, je remplis le mandat qu'il m'a donné. Malgré que ce n'est pas facile, je le fais quand même. Je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi je suis ici à Sainte-Marie, dans cette église. J'ai ma responsabilité à prendre. Donc, on doit connaître notre vocation particulière. Ça demande du temps, ça demande de la prière, ça demande de la validation par les autres, par nos pères, par les responsables de l'Église. Puis je pourrais dire même la responsabilité des responsables de l'Église, là, des anciens, c'est de susciter ces dons-là, d'aller les découvrir auprès des gens, de les encourager. Le deuxième point que je veux souligner, c'est que les commandements de Dieu servent de test à notre foi. Dans notre histoire, on voit qu'il y avait Samuel avait dit à Saül d'attendre 7 jours. On voit ça ça fait référence à un passage précédent, au chapitre 10. Donc, Saül avait eu des instructions très précises, pour se rendre à Gilgal et attendre Samuel. C'était un test de foi et d'obéissance. Il y a beaucoup de réactions face aux commandements divins sur notre obéissance. Pour certains, les commandements divins, les commandements de Dieu servent au désir, c'est-à-dire y obéir, comme si c'était des règles qui nous ouvrent l'accès au ciel. C'est ce qu'on appelle du légalisme, c'est ce qu'on appelle de la religion. Je fais des choses pour être accepté, agréé de Dieu. Dieu, ouvre-moi le ciel, donne-moi un accès à toi. Parce que j'ai fait ça, parce que j'étais bon, parce que j'ai, etc. Pour d'autres chrétiens maintenant, puis il y en a beaucoup, trop nombreux, les commandements de Dieu sont pris à la légère. On ne tient pas, on ne regarde pas à la parole de Dieu pour diriger nos vies. Particulièrement chez les jeunes, les commandements de Dieu sont flexibles, alternatif, vous connaissez l'expression, hein? Vérité alternative. Ça se peut que ce soit ça, ça se peut que ce soit pas ça. Alors, malheureusement, on prend ces commandements à la légère. Pourtant, Jésus a dit à ses disciples, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est notre responsabilité de le faire et notre responsabilité aussi de les recevoir, ces commandements. Combien de commandements prenez-vous au sérieux dans vos vies? Combien? Qu'est-ce que vous faites de l'autorité de la parole de Dieu dans vos vies? Quand on parle de fréquentation, c'est un sujet commun avec les jeunes. « Hey, ouais, mais on va finir par se convertir au Seigneur. » Est-ce que c'est ça que Dieu te demande? Est-ce que tu n'ouvres pas une porte vers la désobéissance? Est-ce que tu n'es pas rendu au septième jour, là, parce que tu es tanné? Je pense que c'est mon prochain point. Exactement. Les circonstances ne sont pas une excuse pour désobéir à Dieu. Puis, juste dire qu'il y a des libertés. Je viens de dire que les commandements sont des barrières, des tests de notre foi, mais aussi nos libertés le sont. On a lu ce mot-là ce matin. Nous sommes libres en Christ. Nos libertés, c'est quoi? C'est d'être capable de faire le bien quand on peut le faire. D'être celui qui va parler du Seigneur quand c'est le temps d'en parler. Puis ça, les amis, là, on manque aussi là-dessus. On ne prend pas cette possibilité que Dieu nous donne. On se ferme la, On ferme la bouche. On ne parle pas. On ne fait pas les bonnes actions qu'on devrait faire. On ne va pas voir notre voisin qui a besoin d'aide. Ah, il s'organisera lui-même. Pas le temps. Alors, il y a des obligations et des privilèges. Puis des fois, on les fait ni l'un ni l'autre. Circonstances ne sont pas une excuse non plus pour désobéir à Dieu. Les tests, souvent, vont nous pousser à l'extrême, dans nos limites. Et c'est comme ça qu'on teste les produits, hein? On va tester la résistance d'un acier, d'une poutre en bois, avec des torsions, de la pression. On veut savoir comment que ça va, elle se comporte. Et Dieu, il fait ça aussi. Il nous amène dans de la sous-pression pour qu'on sache où ce qu'on est rendu avec lui. Alors, lorsqu'on atteint notre limite, notre foi en Dieu devient apparente. Est-ce qu'on est encore fidèle? Lorsqu'on arrive au bout de nos propres ressources, lorsqu'on est épuisé, plus capable, à cause de la maladie, peu importe les situations, dans la vie de famille, ça arrive souvent, c'est là que Dieu nous demande de faire confiance à lui. Dieu pousse Saül jusqu'à la limite en retardant l'arrivée de Samuel jusqu'aux derniers instants, mais Saül ne peut pas lui attendre. Quand il a la réponse qu'il va dire, regarde, tout le monde s'en allait, là, je ne savais plus quoi faire. Il a décidé de faire lui-même l'Holocauste. Il est convaincu, Saül, que sa situation est urgente. Et à cause de ça, ben, on peut déroger aux règles. Je vais faire moi-même le sacrifice. Dans les moments où on est poussé à la limite, notre foi et notre obéissance sont mises à l'épreuve selon ce que nous respectons ou non les commandements de Dieu, que nous lui obéissons ou non. Il faut voir aussi dans Saül aucune preuve de maturité spirituelle dans sa vie. Il n'y en a pas avant son appel, quand il cherche ses armes. Il est constamment, il ne connaît pas Samuel, il n'a pas l'air d'avoir de connaissance de Samuel, pas l'air d'avoir de connaissance du Dieu de Samuel. Donc, très peu de maturité spirituelle, comme j'ai dit avant ou après son appel. Saül n'a aucune discipline non plus spirituelle dans sa vie. Et cela, ben, se voit particulièrement à Gilgal, lorsque sa foi est mise à la preuve. S'il avait connu les commandements de Dieu, s'il avait été fidèle à Dieu, il aurait su plus que le propos de Samuel, là, qui lui avait dit de ne pas faire ça, il aurait su pourquoi il ne devait pas le faire. Alors, Saül, là-dessus, a manqué beaucoup. Il peut y avoir un long délai aussi entre le jugement de Dieu et son exécution. Dans le cas de Saül, le jugement de Dieu qui est tombé ici, au chapitre 13, va s'exécuter presque 40 ans plus tard. Chapitre 13, c'est ce jugement. Chapitre 15, ça va être un autre jugement. Et au chapitre 16, c'est l'arrivée de David. Mais le conflit entre les deux va durer presque 2 livres. Donc, Dieu peut prononcer un jugement longtemps avant de l'exécuter. On le voit, Dieu a rejeté Saül, mais évidemment, la royauté, avant qu'il perde sa royauté, ça va durer, ça va être très long. Ça nous montre quoi, ça? C'est qu'il y a une colère de Dieu qui va arriver un jour. La colère de Dieu va tomber, même si la condamnation de Satan est déjà exécutée, a été accomplie à la croix. Son règne, sa domination sur le monde va arriver seulement plus tard. Mais le jugement va tomber, inévitablement. Rappelons-nous que Dieu est toujours présent. Et un jour, tôt ou tard, eh bien, le jugement va tomber. Et ce sera trop tard pour demander pardon aussi. Dieu agit par le moyen de personnes imparfaites. Une grande vérité de Saül, c'est que malgré son manquement, malgré ses bêtises, sa désobéissance, Dieu n'est pas limité, lui. Et il va se servir, malgré cela, de Saül. Il va avoir des délivrances. Il va avoir, dans le chapitre tout de suite après, il va avoir des victoires. Dieu n'est pas limité. Malgré toutes ses faiblesses et ses péchés, Dieu va utiliser Saül pour le délivrer de l'esclavage des nations environnantes. Et quelle consolation pour moi! Si Dieu peut utiliser un homme comme Saül, il peut m'utiliser. Il peut nous utiliser. Nous n'avons pas à suivre l'exemple de Saül, mais à nous reposer sur la bonté de Dieu, sur la bienveillance de Dieu, sur le pardon de Dieu, sur le pardon de Dieu dans nos vies pour avancer. Peut-être que vous êtes immobilisé parce que vous vous pensez comme Saül aujourd'hui. Mais rappelez-vous que Dieu peut vous utiliser si vous revenez à lui dans la confession, la repentance. Je termine avec le passage dans le chapitre 15 où Samuel va déclarer « L'Éternel, il dit ça à Saül, là, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu l'as rejeté, la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. » Alors que nous soyons sensibles à l'observation de la parole de Dieu, pas pour en faire une religion, mais comme un exercice de foi, comme des principes, des préceptes, pardon, qui vont nous guider dans notre marche chrétienne, qui vont nous faire avancer pour lui, qui vont nous permettre d'avoir des victoires pour lui dans nos vies et dans la vie de notre Église. C'est ça l'objectif. Que cette Église grandisse, que cette Église devienne forte, puissante, avec un témoignage puissant pour Dieu, que ce soit ici ou ailleurs. Prions. Notre Dieu, merci encore pour ta parole. Merci pour ces exemples de vie, de personnages qui ne sont pas toujours glorieux, mais qui nous apprennent quand même des choses pour nous, pour notre marche chrétienne. Alors, merci pour Saül, merci pour ta grâce envers lui, malgré son obstination, malgré ses manquements. Mais donne-nous, notre Dieu aussi, de ne pas faillir à la tâche que tu nous demandes. On ne veut pas que la chaîne débarque, Seigneur. Garde-nous. Au nom de ton Fils. Amen. Alors, merci encore de votre accueil ce matin. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci, Pierre, pour le message.
Merci, Gilles.